France Inter présente le podcast original Parcours Critique, Michel Houellebecq.
En 9 romans, d'extension du domaine de la lutte en 1994 à sérotonine en 2019, le statut de Michel Houellebecq a changé.
Sismographe qui sent les secousses.
30 ans de littérature, 30 ans de critique au masque et la plume.
Mais je trouve que c'est une observation.
30 ans d'évolution de la société française.
Parcours Critique, Michel Houellebecq, un podcast hors série du masque avec Nelly Caprielian.
À télécharger avant le nouveau roman sur l'application Radio France et franceinter.fr.
Les crises que traversent le Liban, l'Irak, l'Arménie et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation et de la santé, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur œuvre-orient.fr.
Le Crédit Mutuel, parrain depuis 20 ans de toutes les musiques, donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter, 22h04, c'est l'heure de votre côté club, Laurent Goumard.
Merci Mathilde Bouquerel, on vous retrouvera à 23h, ce sera pour l'information. Je compte sur vous tout de suite, côté club, tout pour la musique, c'est sur France Inter.
Tout.
Des côtés.
Club.
Vous êtes ici?
Bonsoir, c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous pour votre heure de musique quotidienne. Côté Club, c'est le rendez-vous inclusif de toute la scène française, 22h, 23h, avec qui ? Avec Marion Guilbeault. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Et ce soir, nos invités sont Raphaël de Pressigny et Arthur Teboul de Feu Chatterton, le retour. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Et à vos côtés, Renaud Létang qui remet le son. Bonsoir Renaud.
Bonsoir.
Feu Chatterton, c'est Noël, des remixes, des inédits, des lives, vous jouez les prolongations avec une version augmentée de votre dernier album, le troisième, Palais d'Argile, qui n'est pas prêt de s'effondrer. À vos côtés, une légende, une histoire de la musique à lui tout seul, Renaud Létang, ingénieur du son, j'allais dire aussi producteur, réalisateur, oui, mixeur, arrangeur, allez, un génie du son qui a travaillé et travaille pour Philippe Catherine, Face, on compte aussi Mathieu Bogart, Jean-Louis Aubert, Souchon, Liane Lahavas et j'en passe. On va voir le parcours tout à l'heure. Marion ?
C'est le retour de l'algorithme musical. Dites-moi ce que vous avez aimé et je vous dirai qui vous adorerait.
Eh bien voilà, Côté Club s'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter.
Raphaël, Arthur de Feu Chatterton, Renaud Létang. En préparant l'émission, je me suis demandé si vous vous connaissiez, j'imagine en tout cas de réputation, mais plus que ça.
Non, c'est la première fois qu'on se rencontre.
Ah, c'est la première fois que vous vous rencontrez, ouais.
En fait, moi, j'ai le souvenir de les avoir croisés au studio Ferber. Parce que c'est là que je suis et ils sont venus faire un live ou un truc.
Une session d'écoute, ouais, du deuxième album.
Voilà.
Passage,
voilà. Ouais. Donc je les ai vus dans l'entrée du studio, mais je n'ai pas osé leur dire bonjour.
Il est comment ce studio? Ce studio mythique.
Ah, somptueux.
Parisien, ouais.
On n'a jamais enregistré là-bas, faudrait qu'on essaye.
Bah, non, l'album a été.
En tout cas, ça irait, sincèrement, irait bien à votre style de musique.
Bah,
parce
c'est
que
ça,
le son.
Il y a une grande salle
et le son est très mat. Du coup, pour les groupes de rock, c'est super. Ah. Parce que. Voilà.
Vous aviez enregistré le dernier album à Bruxelles,
ouais.
ICP.
Ouais.
Pour quelle raison vous aviez choisi celui-ci?
En particulier pour ça, c'est vrai qu'on est un groupe de rock et on aime enregistrer en live, ce qui est aujourd'hui plutôt rare quand même dans la musique. Donc il faut trouver des studios où il y a ces conditions réunies, pas trop cher aussi, parce qu'on aime passer du temps en studio. Et à Bruxelles, il y a des conditions super dans ce studio, en plus, qui a vu passer Bachung, Christophe, et qui est un endroit hyper sympa, avec du bon matériel, et de quoi enregistrer vraiment en live, voix et instruments, ce qui n'est pas si facile en fait, si commun.
Ouais. Confirmé, Renaud Létang.
Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est compliqué pour enregistrer de la musique rock, en fait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je crois. Parce que c'est des instruments acoustiques qui sont joués très fort. Et du coup, l'acoustique de l'endroit va jouer énormément sur le résultat. Et la possibilité d'enregistrer live, il faut avoir la possibilité de cloisonner chaque musicien de manière assez importante, mais que le link entre les instruments soit quand même agréable. D'où l'importance de l'acoustique de la pièce.
Raphaël et Arthur, quand vous pensez Renaud Létang, vous pensez à des artistes précis, vous pensez à des albums, à des sons particuliers. Raphaël?
Tout le début de mon adolescence, c'était Emmanuel Chao, donc il y a eu ça forcément, mais même Souchon quand j'étais enfant, ouais. Donc beaucoup. Et ouais, bah, après plus récemment, le dernier Face, j'ai vraiment beaucoup écouté. Il y a des albums que j'ai écoutés, je ne savais même pas que c'est lui qui les avait réalisés, de Conan Mocassin.
Moi aussi, pareil. Et pour vous, Arthur?
Non, moi, c'est vrai que c'est les Souchon et Manu Chao. Aussi parce que, en fait, avant d'être musicien, c'est des métiers qu'on connaît mal, les métiers de réalisateur. c'est vraiment difficile d'expliquer au public à quel point la place du réalisateur est importante dans la confection d'un album. Parce qu'un album, c'est des chansons, donc des compositions. Mais une chanson, elle peut avoir 1000 couleurs. Et la couleur, elle va vraiment être donnée par le réalisateur, celui qui... C'est à la fois de l'enregistrement, de la direction artistique, des choix d'instrumentistes. Parfois, tiens, ce serait d'arrangement, une idée comme ça qui vient. Et donc, aujourd'hui, maintenant qu'on est musicien, on a vraiment l'habitude, nous, en tant que musiciens, d'essayer de déceler la patte du réalisateur dans l'enregistrement d'une chanson. Mais plus jeune, il y a des albums comme ça qui sont très, 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 très marqués dans leur couleur et leur production, et notamment les albums de Manu Chao et de Alain Souchon à l'époque déjà, quoi.
C'est des albums qui, pour nous, étaient des petites sphères. Et sauf qu'on n'avait effectivement aucune idée que ça pouvait être dû en partie à la patte du réal.
Renaud Létang.
Ouais, en fait, c'est très très bien expliqué. mais peut-être pour faire encore un truc un peu plus général, c'est vraiment la même chose qu'un réalisateur de film. C'est-à-dire, si vous prenez les acteurs, c'est les musiciens, les chansons, c'est l'histoire. Il y a un truc à raconter, il y a des costards à mettre à chaque personnage, et tout ça, ça doit être ultra cohérent. Et c'est là, je crois, qu'on essaye de réaliser justement les envies, leurs envies, ou s'ils en ont pas, de nous avoir une perception de presque mieux les connaître qu'eux. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est, il y a un gros travail humain et psychologique pour comprendre la personne.
Tout à l'heure, on parlera justement des albums Clandestino de Manu Chao. Je passerai bien sûr des extraits pour qu'on voit justement quelle est cette patte. Mais tout de suite, on va partir en live avec vous. Une version inédite de Compagnon des mauvais jours. C'est un bonus sur la version augmentée de votre album Palais d'Argile. Ça a été enregistré où d'ailleurs?
Ça, c'est aux Francopholies de La Rochelle, hein, le dernier été, premier été après le confinement. Donc une saveur particulière pour nous, ces concerts.
Je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû les écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît. Mais je n'en fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du funk et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, ça va à La Rochelle. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Moi je m'en vais, la recette était mauvaise. Quand on joue du chien à poil du, pour entendre hurler à la mort, cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, mes rêves, moi je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez bien réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours.
Super prise de son en live pour Compagnon des mauvais jours. Formidable extrait de la version augmentée du troisième album Palais d'Argile. Arthur Teboul, le chanteur, Raphaël de Pressigny, le batteur. Quel était l'enjeu de ces additions pour ce nouvel album? Parce que vous les avez bossés manifestement, ces lives, pour que ça sonne aussi bien, aussi fort et aussi net.
En vrai, on est un groupe de live, quoi. On est hyper content d'avoir réussi à faire un album studio à la hauteur de nos ambitions. Parce qu'on trouve que Palais d'Argile, à ce niveau-là, est vraiment réussi et on est très heureux. Mais on est un groupe de live et pendant 2 ans, on n'a pas joué parce qu'il y a le Covid. Et on a tout de suite voulu rejouer. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps de battement en avril, mai, juin dernier, où les artistes se demandaient, oui, dans quelles conditions, un siège sur deux, assis, masqué, tout ça.
Ouais.
On a dit, on y va, on s'en fout. Le premier concert qu'on a fait, c'était dans la mairie d'Arras, devant 80 personnes, assises, une place sur deux, avec des masques. Mais les premiers applaudissements de ces 80 personnes, je peux vous dire qu'on s'en souvient. Et maintenant, il faut toujours garder à l'esprit, parce que ça y est, on a repris la tournée, là, on est en pleine tournée, on a fait une trentaine de concerts depuis cet été. Il faut toujours garder à l'esprit cette chose-là, que c'est, faut pas s'habituer, c'est rare et précieux et vraiment unique de pouvoir vivre ces moments-là. Donc c'était important pour nous de remettre ça sur le disque, quoi.
Autre chose aussi, c'est jamais évident, en fait, de mettre des lives sur un album. Ça peut sonner de façon quelquefois même pénible. Là, comment vous avez bossé? Parce que c'est ça, c'est pas évident, Renaud Létang, vous qui êtes habitué à ce genre de production.
Vous voulez dire de produire un live? Ça demande une performance du groupe importante, quoi. Dans le cadre de Feu Chatterton, ça doit être évidemment encore un problème de reprise, de trucs, le machin, la voix, sortir la voix, il y a trop de charlet dans la voix, le truc, c'est extrêmement compliqué à mixer, mais c'est passionnant, parce qu'il y a une énergie, il y a un truc imparfait, pas imparfait, mais qui a un son imparfait, et du coup on peut, comme à chaque fois que c'est imparfait, on est obligé de trouver des trouvailles, et on arrive à faire des super sons.
Raphaël de Pressigny.
Je pense que, vu que l'album a été enregistré live, même si le son est quand même assez différent de celui de l'album et que les morceaux suivent l'album, on les a pas intégrés dans l'album, je pense qu'il y a une énergie commune avec une texture sonore différente. Donc heureusement la prise de son à la base était plutôt bonne, donc on l'a fait mixer, on a fait un travail dessus, mais on n'a pas cherché à gommer la différence. On garde ce bénéfice de l'énergie du live. Là on est sur la scène des Francopholies de La Rochelle, c'est notre premier morceau par exemple. On est dans un état d'effusion, d'énergie qui va pallier des fois le son qui peut pas être aussi raffiné, travaillé qu'un album.
C'est sûr que celui qui est en studio.
Mais il y a quand même, en studio, on a essayé de conserver cette énergie. C'est juste, on va dire, cette même énergie décuplée par la présence du public qui nous rend toujours...
Marion?
Oui, à propos de Palais d'Argile, il y avait l'intervention quand même d'Arnaud Rebottini, donc cette partie électro dans votre musique. Et ça, l'amener sur scène avec vous, est-ce que ça a été compliqué à l'inclure, à lui trouver une place?
Arthur?
Non, pas tant, parce qu'en fait... Ce qui est surtout démultiplier le matériel.
Ah, ouais. Techniquement,
on se déplace compliqué. Avec une usine à gaz. Antoine qui joue de la basse.
Ouais.
Là, en ce moment, on lui envoie toute notre force. Il a un laboratoire, quoi. C'est-à-dire qu'il est entouré de synthétiseurs, de boîtes à rythme. Parce que c'était très important pour nous qu'en live, alors c'est un peu technique, mais tout ce qu'on joue soit joué en direct. C'est-à-dire que même quand on envoie des séquences, c'est-à-dire des boucles musicales qui se répètent, ce soit pas un ordinateur qui commence au début du morceau et qui s'arrête à une fin de morceau, parce que ça voudrait dire qu'il y a une fin de morceau.
Oui, or, en live, figé, quoi.
La durée d'un morceau, on veut pas la connaître. Et donc, quand on envoie des boucles, ça passe par des machines analogiques, on envoie des séquences et tout, donc faut appuyer sur plein de boutons, régler encore, ce qui rend la chose très vivante, mais aussi très hasardeuse. Et Antoine et Clément aussi, maintenant, s'occupent vachement de ces choses-là en direct. Ils doivent anticiper certaines choses, pendant que nous, moi, je suis en train de sautiller devant, j'ai rien à faire. Il y a des mecs, c'est les copains qui sont là en train de réfléchir
Raphaël.
À
ces trucs-là.
Non, et du coup, ce qui a été dur pour eux, mais maintenant ils le retrouvent, c'est de retrouver le plaisir de, parce que quand on doit jouer de la musique, mais en même temps appuyer sur plein de boutons qui sont des éléments techniques et pas des éléments d'émotion. Et là, ils sont en train de retrouver justement en live le plaisir de retrouver de l'émotion malgré toute cette complexité à gérer. En fait, on s'est vraiment inspiré de l'installation d'Arnaud justement. On a les mêmes les mêmes séquenceurs, et en fait, lui, quand il a tous ses synthés en live, sauf que lui, ça n'est que de la séquence. Alors que nous, il y a vraiment ce mélange entre les machines, qui sont vraiment des machines et pas des ordinateurs, et toute notre humanité un peu bordélique. Et donc, voilà, ça a pris du temps, mais ça commence à payer.
Et ça change tout au niveau...
Renaud Létang.
Quand on est auditeur, ça change tout, le fait que ça soit comédie figée avec un Pro Tools, avec un début, une fin, rien qui bouge, le tempo, on ne peut pas se rattraper, il faut suivre. En fait, on a un maître, et il faut suivre le maître. Alors que là, c'est juste quelqu'un qui renvoie une séquence. S'il la met un peu au fond, tout le monde va jouer un peu au fond. Et il y a une liberté, même le fait d'avoir un clic qui bouge pas, qui bouge jamais, c'est épuisant à écouter.
Mais il y a de plus en plus de groupes qui jouent comme ça. Enfin, ces derniers temps, on a vu vraiment énormément d'artistes qui ne jouaient que comme
ça.
Tout était sur ordinateur. Très peu de choses étaient jouées live.
C'est presque du... Allez, je vais être provocateur, mais c'est presque du karaoké, quoi.
Ouais.
Ou du playback, quoi.
Et ça va changer, c'est qu'une période.
Mais ça change déjà. Ça change déjà, par exemple, Eddie, qu'on connaît bien, sur sa première tournée, de Préto, il avait un batteur.
Tout à fait.
Il chantait, puis après, il a eu quand même un troisième musicien, mais c'était globalement beaucoup de choses préenregistrées, à part la batterie et la voix. Et là, il a fait un choix beaucoup plus radical sur cette nouvelle tournée où il s'entoure de musiciens live et ça joue sans ordi et pour retrouver ce plaisir du vivant, en fait.
Même dans la jeune génération, on voit, un peu plus jeune que nous, quoi. On croise en tournée de nouveau des groupes, de nouveau des artistes qui reviennent. Parce qu'un live, c'est ça, en fait. Je veux dire, on a vu avant le virus tout un été de festival avec ce genre de prestations, quoi. On appuie sur un ordinateur et on y va. Bon. Ça peut faire des concerts sympathiques parce que parfois le public est tellement fan que ça crée une ambiance incroyable. Mais la prestation sur scène, elle est limitée parce que ce qui est beau dans le live, c'est le risque. C'est quelque chose qui se joue vraiment là.
Et il y a une autre chose qu'on oublie, c'est que quand on n'utilise que de l'électronique, il n'y a aucune dynamique. Ça veut dire, comme vous avez pu constater, tous ces concerts, ça arrive à fond, et puis c'est à fond, et puis on n'en parle plus. Alors que l'intérêt, c'est de pouvoir mettre des gros coups de dynamique quand on a besoin, de redescendre quand on a besoin, et ça fait beaucoup de, je crois que ça fait beaucoup d'effet quand on regarde un concert.
Ouais, c'est créer une dramaturgie musicale.
Conan spécialiste, il va faire les premières 20 minutes à 2 de volume, c'est-à-dire que les gens continuent à parler, ont pas entendu que le concert commence, ok? Donc il y a une ambiance un peu bizarre comme ça, mais le moment où il met une pêche, les gens ils sont hystériques. Et ça, une fois, avec que des machines, c'est impossible à faire. Parce que tout est dit dès le début, en fait.
Alors, Fugetterton, vous n'êtes pas venu les mains vides. À côté de la ressortie de Palais d'Argile version augmentée, il y a un EP de reprise, Écran Total Remix. Découvert de ce titre par des pointures de l'électro et pas que. Ce titre, d'ailleurs, le voici, l'original.
J'étais au écran pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran, sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand? Derrière mon écran. Et je disais mal.
Ça, c'est la version originale sur le troisième album. Notre réalisateur Stéphane Le Guenec a fait son remix de 4 des 8 remixes d'Écran Total. On va entendre ceux d'Arnaud Robotini, Yuxek, Fishback et Chloé.
J'étais où et quand? Pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand? Derrière mon écran. Et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Pour toi. Pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied le danser? Thank you.
il aurait pu y avoir ce remix de tous les remixes à l'intérieur. Donc là, on vient d'entendre juste Chloé avant Fishback, on remonte encore Yuxek et on a débuté par Arnaud Robotini. Pourquoi ce titre-là précisément dans cet album qui en compte 13? Pourquoi ils ont pris ce titre-là?
Ça, c'est sous notre impulsion.
J'imagine bien.
Bah parce que c'est le titre de l'album qu'on, depuis le départ, on imagine le plus club. Qui est à la fois un des propos les plus caustiques du disque, ouais. Et à la fois la chanson la plus dansante. Et on aimait vraiment cet équilibre. Donc on fantasmait depuis très longtemps l'idée que les gens dansent comme des dingues sur un titre aussi, on va dire, insurrectionnel, aussi critique, quoi.
Et... J'imagine qu'en concert, il marche formidablement bien aussi, non?
Ah, c'est jouissif, ouais. Ouais.
C'est ça, Raphaël? C'est un des moments forts du concert?
Ouais, ouais. Ça fait partie vraiment des moments forts du concert, parce qu'il y a vraiment cette juxtaposition de ce côté club et dansant, qu'on a dans quelques morceaux, mais pas dans tous, et la folie que prend Arthur dans le deuxième couplet, quand il harangue la foule et qu'il crie, je pense que ça met les gens dans un état d'hystérie assez... Mais même nous, sur scène, à ce moment-là, il se passe quelque chose de complètement enflammé. Et pour revenir sur le choix du morceau, je pense que en tant que morceau justement club et dansant, c'est un morceau dont on a eu beaucoup de versions en fait, d'arrangements différents. Et parce que cette musique-là, le propos était là dès le début, le texte d'Arthur. Et du coup, il y avait plein de manières différentes de le faire. On a fini par en choisir une sur l'album. Et je pense qu'en proposant à tous ces gens de faire des remixes, ça nous a aussi permis peut-être d'assouvir tous les fantasmes des différents arrangements qu'auraient pu, un peu comme les couvertures auxquelles vous avez échappé à la fin de Charlie. Et il y a un peu ça aussi dans le plaisir de faire remixer ce titre.
Fochet Ayrton, vous restez avec nous. On a rendez-vous dans quelques instants avec Marion Guilbeault, avec Renaud Létang. D'ailleurs, Renaud, on vous écoute tout de suite. On écoute votre choix playlist France Inter. Vous avez choisi Malik Judy, un extrait de son album 3 que vous avez réalisé. Peut-être un mot sur ce choix dans la playlist de France Inter.
Bon, c'est un choix hyper hyper nul en fait.
Hyper
affectif, hyper personnel, hyper égoïste.
Voilà. Vous vous souvenez du travail avec Malik Judy, sur quoi ça portait plus précisément?
Alors ça a porté beaucoup sur arriver à ce qu'il assume sa voix. Que sa voix soit beaucoup plus chaleureuse devant, profiter des textes. Et après, on a poussé toute une partie de production qui voulait vraiment arriver à pousser, qui est la partie groove. Vraiment, on a vraiment essayé dans le côté très simple, mais d'aller loin dans cet esthétisme.
Et ça donne quoi? Vertige.
Qui pense, qui attend, qui a tout compris. C'est ça qui fait. France Inter.
Et avec Marion Guilbeault, c'est l'heure des recettes de Marion.
J'adore ça. Allez, je rappelle le principe de l'algorithme. Vous connaissez tous les trois. On part de ce que vous aimez pour vous proposer d'autres choses à découvrir. Et on commence avec le premier disque acheté. Ça, c'est toujours très important. C'est un marqueur. On commence avec le vôtre, Renaud Létang. Frankie Smith, Double Dutch Bus, 1980. Alors, qui c'est ce Frankie Smith, Renaud Létang? Qu'est-ce que ce son a de fondateur pour vous?
En fait, c'est le. J'ai été chez un disquaire, parce qu'avant, il y avait des disquaires dans les villes de banlieue, quoi. Mm-hmm. Et je lui ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il m'a dit, écoute ça, c'est super. Là, j'ai mis ça, et ça m'a rendu fou, mais j'avais 11 ans. Et c'est devenu. Je crois que c'est presque le premier rap, un peu. C'est considéré comme le premier morceau rap. Et d'ailleurs, ça a été samplé par Missy Elliott, par plein de gens, dans tous les sens. C'est un morceau mythique. Il y a eu des remixes dans tous les sens. Et voilà, je ne savais pas en l'achetant. Et j'ai adoré l'album entier, vraiment très bien.
Alors, de votre côté, Feu Chatterton, ce n'est pas tout à fait la même époque et pas tout à fait le même son.
Mais quand vient la nuit et nos moments de silence, on pense tous fort à toi. C'est pour ça qu'on rit aujourd'hui, pour pleurer hier.
À l'époque, j'en ai pleuré, ne laissant qu'un flot de larmes à essorer. Je ne pouvais pas m'en empêcher, t'aurais pas dû repartir maintenant. Je suis le jeune écœuré, j'ai l'âme qui ne cesse de pleurer. Nos délires squattent, mon cœur apeuré. Je ne cesse
Sayan Soupacrou, ça c'est pour vous, Raphaël. Et pour vous, Arthur, c'est un peu plus bizarre.
Vous aviez quel âge?
Hit Machine volume 2, c'est ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit le premier disque que vous avez acheté.
2, il y avait Wes,
il y avait Will Smith, il y avait Ménélique, Doc Gynéco, Patricia Cass. On est en 1997 même. Hein.
Bah, j'avais 10 ans.
Vous l'aviez acheté tout seul.
Et vous l'aviez acheté pour quel titre alors?
Maintenant, je me souviens plus s'il était dans ce disque, mais j'avais acheté pour Freed from Desire de Gala.
Non, alors je crois pas qu'il était.
Peut-être qu'il était dans le Hit Machine volume 1, mais à l'époque, on allait chez le marchand de journaux.
Ouais.
Il y avait le fascicule et puis le disque.
Ouais.
Et avant, j'écoutais la musique de mes parents, que j'aimais beaucoup. Mais je me souviens de ce jour-là, comme peut-être. Peut-être comme toi, quand t'as acheté ce disque chez le disquaire,
c'est dans
l'indépendance. Maintenant, j'achète mon disque et c'est moi, je vais l'écouter. C'est une sorte de liberté. Alors bon, la liberté de Pedro Vobrezzi, mais je veux dire, il y avait quand même des titres très émouvants à cette époque-là. Moi, j'aimais Alan et Maddy, c'était mortel. Si pata pata. Et puis Gala, franchement Gala.
Et ouais, Gala, bien sûr. Sayan Soupacrou, 1999. Raphaël, c'est leur premier album. Vous faites déjà de la musique vous à cette époque-là?
Pas du tout.
Non.
Moi, j'ai grandi en banlieue. Et effectivement, alors mes parents écoutaient plutôt du rock, la world. Du classique, un truc comme ça, et mes potes écoutaient que du rap. Et quand l'album du Sayan sort, un pote m'offre juste le single d'Angela. Et genre, le lendemain, j'ai demandé à ma mère, maman, on peut aller acheter des CD. Et genre, j'avais un peu d'argent de poche et je suis allé m'acheter l'album KLR. Et c'est marrant parce que rétrospectivement, quand on me demande qu'est-ce qu'il en reste, déjà, c'est un collectif. Et le texte est très important. Mm-hmm. Alors, effectivement, musicalement, enfin, il y a des trucs très très bons musicalement parce que leurs jeux de chœur sont assez incroyables. C'est pas forcément une direction que j'ai gardée dans mes pratiques.
Exactement.
Mais c'est un groupe centré autour du sens et du texte et du collectif. Et mine de rien, je pense que ça a joué.
Pour Feu Chatterton aujourd'hui.
Alors, on va passer ensuite à votre idole absolue. Pour vous, Renaud Létang, ça se passe aux États-Unis dans les années 70 avec. Stevie Wonder, Higher Ground, c'est un titre de 1973. Qu'est-ce qui vous plaît dans le son de cette époque chez Stevie Wonder?
Alors, c'est plus qu'un son, en fait. C'est, Parce qu'il y a eu plein de sons en fait. Il a vraiment développé des styles de production à lui tout seul. Il a quand même fait pas mal de la. Il a exploré l'électro, il a exploré le fait de travailler avec des overdubs. C'était le premier à faire « Ok, je vais jouer la batterie, et puis après je vais rajouter une ride, puis après je vais mettre des toms par-dessus. » Donc il y a un truc de non-musicien qui est incohérent et qui a un peu bossé comme de l'électro dès le départ. Et puis après, c'est sans parler du songwriting qui est un songwriting de malade. Vocalement, enfin, c'est pas trop l'époque, quelles que soient les époques. Enfin, je veux dire, c'est plus ce gars, c'est juste musique, quoi. Il y a pas d'époque, c'est encore ultra moderne. Enfin, quand j'entends ça, si quelqu'un faisait ce morceau-là aujourd'hui, on créerait au génie, je crois.
C'est sûr. Un son un peu plus grave pour vous, Raphaël, avec cette voix.
Sur la marée haute, je suis monté, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute,
la Sade, c'est là. La Marée Haute, qu'est-ce que cette chanteuse musicienne américano-mexicaine disparue en 2010 vous évoque?
Moi j'ai eu une fascination et toujours, dès que j'ai découvert cette voix et cette femme, je pense qu'émotionnellement c'est l'artiste qui m'a le plus touché. Et c'est pour ça qu'au moment où j'ai lu la question, j'ai énormément de génies qui sont, je pense, des idoles pour moi. Mais en fait, je pouvais pas choisir entre les génies, entre Miles, Prince, enfin, je sais pas, plein de gens. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a le plus touché vraiment pendant longtemps? Et là, ça, c'est incompréhensible pour moi, mais dans sa manière de chanter, elle livre quelque chose d'elle-même. Qui fait que tous les gens qui ont un peu écouté la ça se sentent presque proches de cette personne, et j'ai l'impression de la porter c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est émotionnel purement.
Enfin pour vous Arthur, l'icône du moment en musique, c'est lui. David Bowie, j'ai dit icône du moment, Arthur, parce qu'il paraît que c'est changeant.
Ouais, c'est un peu comme Raphaël, ouais. J'imagine, je sais pas, il y a une semaine, j'aurais peut-être dit Chet Baker, celle d'avant Bob Marley. Mais là, récemment, je regardais un live de David Bowie qui chante The Man Who Sold the World avec en arrière-plan Klaus Nomi, habillé dans un style de cabaret rétro-futuriste. Et je me dis, quelle audace, je trouve ça... incompréhensible, incroyable, génial d'être réussir à être aussi moderne. Et en fait, c'est pas si évident, parce que quand on regarde les costumes, les attitudes, les partis pris, ça aurait pu être sur un fil. Ce qu'il a fait aujourd'hui pourrait paraître parfois ridicule, grotesque. Et c'est ça le propre des grands artistes. Ouais. Aujourd'hui encore, c'est merveilleux, c'est sublime, c'est contemporain, c'est d'avant-garde, c'est précis, c'est racé. Et voilà, je sens, je sais pas pourquoi, on le sent tous avec les grands génies musiciens, une intimité. On parlait Raphaël, c'est pour ça qu'on les aime. Mais aussi, je sais pas comment dire, cette tension permanente entre l'esprit et la chair, l'intellect et le viscéral. Et moi, c'est des choses qui me fascinent, c'est les plus grands artistes, mais je trouve que chez Bowie, c'est quintessentiel.
Alors avec toutes ces informations, l'algorithme a mouliné et voilà ce qu'il en sort, parce que d'un côté, le vôtre, Renaud Deletan, il se dessine une playlist un peu monomaniaque, hein, orientée soul, funk, R&B, une chose est sûre pour vous, il faut que ça groove. Du côté de Feu Chatterton, quelque chose de plus éclaté, on trouve du hip-hop, de la drama queen, de la pop anglo-saxonne. Alors finalement, pour vous réunir, j'ai pensé à quelqu'un qui pratique le grand écart sonique, avec un sens certain de la rythmique, de la dynamique. Cette personne, c'est Antoine Harris Pourou, alias Golden Bug, un producteur remixeur français. Il est exilé à Barcelone. C'est un adepte de la sérendipité musicale, quelqu'un qui cherche donc. Il est aussi sculpteur, patron de label, et on l'avait repéré au printemps dernier avec une variation autour de la guitare fuzz de Lionel Liminianas. Et son nouveau titre sonne comme un clin d'œil à la scène avant-gardiste japonaise des années 70. Il y a des instruments traditionnels, il y a des guitares tranchantes, des grooves psychédéliques. C'est un peu comme si on se collait un kaléidoscope à l'oreille. Le titre, c'est Tokoyo no Kuni. C'est Golden Bug featuring Voga Voga. Il est accompagné de remixes signés Nicolas Cruz, Michael Meyer et Wolf Müller. On attend son album Pisco Labis pour 2022. Alors Arthur, Raphaël, Renaud Létang, ce sont cette démarche, est-ce que ça vous intéresse?
Carrément.
Ah, je trouvais ça super.
Adopté.
Complètement adopté.
L'algo a marché.
Vous me noterez le nom pour la fin. Parce que là,
curiosité attisée.
Je vous fais une ordonnance en partant.
Ah ouais, avec grand plaisir.
Alors c'est à votre tour, Raphaël de Pressigny, de jouer les programmateurs. Après Malik Djoudi pour Renaud Létang, vous avez choisi dans la playlist de France Inter Delgrès. Alors un mot pour justifier ce choix s'il le fallait.
Vraiment l'alliance de la lourdeur du rock et d'une certaine forme de groove, vraiment du créole. Alors moi je connais pas très bien la musique antillaise, je l'ai pas pratiquée, mais j'ai pas mal pratiqué la musique d'Afrique de l'Ouest, qui est différente, mais qui a quand même il y a des parentés sur le plan rythmique, c'est un peu des enfants quand même de ces traditions. Et l'alliance des deux, moi, me fascine, me tente d'ailleurs. Et vraiment, le mélange est tellement bien réussi. Et c'est, moi, je les ai vus en live, c'est une puissance. C'est voilà. Donc
tout de suite, c'est Mola sur France Inter.
Laissez-moi vivre.
Boule, Raphaël de Pressigny, de Feu Chatterton sont nos invités côté club ce soir. Avec vous, Renaud Létang, producteur, réalisateur, arrangeur, mixeur, ingénieur du son. Une histoire qui commence dans les années 90, on va y revenir, enfin même avant, puisqu'il y a une autre période. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne, qu'on évoque les tout débuts. Vous êtes né en Iran, vous avez beaucoup voyagé, beaucoup vécu à l'étranger, Indonésie, Venezuela. Est-ce qu'il y a des sons qui vous ont marqué?
Ah oui, sinon c'est sûr que... Disons que avant mes 12 ans, 12-13 ans, j'avais vraiment eu la chance de pouvoir voir trois cultures complètement différentes. Passer de Caracas à Jakarta, c'est genre, c'est vraiment. Et donc j'ai vécu toutes les musiques du moment dans la rue, dans le truc. Donc ça m'a apporté beaucoup au niveau des sons, mais aussi des langues. Je mixe beaucoup de langues différentes. Ouais. Et j'ai jamais de problème de... Donc je mise du portugais, de l'espagnol, de l'anglais, du français. Je crois que ça m'a aidé beaucoup, parce que j'ai dû apprendre toutes ces langues. Donc j'ai l'oreille qui est habituée à repérer les accents, tout ça. Et aussi au niveau, ce qui m'a aidé, je crois beaucoup, c'est au niveau des ambiances. C'est que je sais ce que c'est qu'un concert latino, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi l'énergie, c'est quoi la vibe, c'est quoi le...
tout ça, je crois que c'est ce qui m'a permis aussi de faire pas mal de world music et de savoir de quoi je parlais.
Est-ce qu'il y a des sons dont on peut trouver la trace dans votre travail, par exemple?
Bien sûr, ouais.
Pensez à
quoi? Déjà, quand on se réveille tous les matins, quand on est petit, par le chant de la mosquée, c'est une ambiance. Donc, j'ai travaillé avec le trio Joubran, par exemple, les morceaux avec Manu Chao. Il y a certains morceaux où il y a ces ambiances-là. Et c'est vrai que les avoir vécues et d'avoir des empreintes sonores dans le cerveau, ça m'aide beaucoup. J'ai fait un album avec Seo George.
Ah mais oui, un seul qui s'appelle Cru.
Voilà.
Qui est génial.
Que j'adore.
Mais j'adore voilà. Aussi, ça, je voulais qu'on en parle justement. Ouais.
Ça, j'ai pu le faire que parce que je sais ce que c'est et que je savais me débrouiller avec un pandero, une guitare et qu'il fallait que ça fasse un tout. Et tout ça, évidemment, que ça m'a aidé, ouais, bien sûr. Mais surtout connaître tous les grooves, la polyrythmie, tout ça, ça...
Alors, une histoire de studio avec vous, mais auparavant, un père ingénieur, pour Alstom, pianiste de jazz à ses côtés. Enfin,
Mais
bon pianiste
énervé,
de jazz.
Énervé, ouais. Tous les jours, 3-4 heures de piano.
Oui,
il a fait des disques, il était multi-instrumentiste, il jouait trombone, guitare et piano. Donc, pour quelqu'un de sa génération, c'était très rare. Il a vraiment été élevé, il n'avait pas le droit de jouer de jazz chez lui, c'était la musique de Satan, tout ça, quoi. Donc, il vient de loin, quoi. Et il jouait à la coupole le soir pour payer ses études quand il était à Paris. Donc il a vraiment un passif. En fait, ma première formation, c'est vraiment le jazz. J'ai eu la chance d'entendre tous les classiques et tous les standards de jazz que mon père me jouait tous les soirs. Quoi.
Et vous-même, vous avez été musicien?
Alors, oui.
Un passé de groupe avec des potes, par exemple?
Oui, tout à fait. Bien sûr.
Quel répertoire? Et vous jouiez de quoi? Vous chantiez ou vous jouiez de quoi?
Je jouais de la guitare. Et c'est ce que je joue aussi beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai très tôt, mon père a voulu que je fasse du piano. Ça m'a énervé, je crois, parce qu'il en jouait et que je voyais que j'y arriverais jamais. Donc, la prof de piano qui était hyper marrante et smart, elle a commencé à me dire « Ok, toi, tu vas jouer les partitions de piano sur un petit tam-tam ». Ça a commencé comme ça. Et après, j'ai très vite eu des cours de jazz, de guitare, un peu trop jeune, ce qui fait que c'était un peu trop compliqué pour moi. Et après, j'ai joué dans des groupes de rock parce que j'ai habité à Sèvres. Donc Sèvres, c'est une ville de banlieue de la région parisienne. C'est un peu là qu'est né le rock alternatif. Et donc je me suis retrouvé baigné à 14-15 ans là-dedans, à fond la caisse.
Voilà. Quelque chose qu'on va retrouver par la suite.
Exactement.
En 89, vous êtes encore tout jeune, vous entrez dans le premier studio français de l'époque, Guillaume Tell.
Ouais.
Je me demandais qu'est-ce que vous y avez appris, parce que surtout c'était un studio qui était très prisé par les stars anglo-saxonnes.
Exactement.
Vous avez vu défiler Prince,
Bowie aussi? Alors Bowie non, mais j'ai fait Prince... Sting, Yes, Yu Sundur, Paul Simon.
19 ans, 20 ans.
J'avais 19 ans, ouais, c'est ça. Enfin, j'ai commencé à 18 ans. À 19 ans, j'étais un peu premier assistant au studio, donc je me tapais tous les gros projets. Voilà, c'était fou. Là, pour le coup, j'ai appris, j'ai vu les plus grands producteurs. La plus belle expérience pour moi, là où je pense où j'ai appris le plus, c'est que je me suis retrouvé 8 mois consécutifs avec un producteur américain qui s'appelle Phil Ramone.
Ah bah oui, quand même.
Voilà. Et donc j'ai été son assistant de production pendant 8 mois. Et là j'ai appris, c'était fou quoi.
À la même époque, vous êtes ingénieur du son pour Jean-Michel Jarre, en live et en studio, 10 ans de collaboration.
Ouais.
Le son Jarre, c'était quoi? Quelle marge de manœuvre pour vous, qui étiez à l'époque encore tout jeune?
Alors, je commençais ma vie de studio et ce que j'ai fait avec Jean-Michel, c'était beaucoup. Principalement que du live, et je préparais aussi ces concerts. Donc la seule chose que j'ai mixé en musique, c'est j'ai remixé Oxygène. C'est le seul truc que j'ai fait. Sinon, c'était que du live. Donc les conditions étaient dingues. Je veux dire, c'était fou à l'époque. Ils m'auraient dit on va faire un concert sur la Lune demain. Et franchement, je l'aurais cru. J'ai vécu des trucs pas possibles, vraiment. On a fait les concerts des 800 ans de la ville de Moscou. Avec Boris Eltsine, à l'époque, était président. J'ai vu des réunions, des trucs. Enfin, c'est un homme qui a un tel pouvoir de persuasion qu'il arrive à faire des trucs, mais incroyables.
Le truc le plus incroyable qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Lui.
Plus incroyable.
Oui, parce qu'il faut être à la fois diplomate, pas simplement musicien, diplomate,
bien sûr, non, mais là,
politique.
Ah oui, là, c'est fou. Ben, je me souviens d'un jour, c'était pour ce concert à Moscou, et on était dans une réunion un peu des chefs. Donc moi j'étais le chef du son, donc j'étais là. Il y avait le chef de la sécurité, l'armée, Jarre, machin, le truc. Et Jarre dit à tout le monde, bon ça serait peut-être bien de prévoir un concert supplémentaire. C'était au mois d'octobre, Moscou, bon, il faisait pas beau. Et il dit peut-être que c'est bien. Et il y a un général qui lui dit, ah non, mais est-ce que vous avez déjà vu un défilé de l'armée rouge sous la pluie. Et j'arrive, et bon, on arrête de rigoler, bon, c'est quoi votre truc? Et là, il prend un coup de coude de l'interprète. On sort et l'interprète nous dit, non, mais ils savent faire la pluie et le beau temps. Et là, du coup, le lendemain matin, non, mais c'est véridique. Non, mais c'est véridique. C'est
le maître de la météo.
C'est ouf, ouais. Non, mais c'est fou. Et donc, le soir, on fait notre répète et tout ça. Et tout d'un coup, on voit là-haut, on entend des hélicoptères. Et ils pétardent des trucs, comme des petits trucs de feux d'artifice, mais pas très gros comme ça. Et en fait, c'est du nitrate d'argent, je crois. Et ça pousse les molécules d'eau. Le lendemain matin, tout Moscou, ciel bleu, tout autour cramé. Voilà, donc c'est ça.
Ça, c'est quand même merveilleux.
Voilà, c'est des choses comme ça. Quoi.
Je vous vois, Arthur et Raphaël, complètement abasourdis par ce genre d'histoire. Faire la pluie et le beau temps, quoi, c'est vraiment ça. C'est
j'en ai d'autres, hein, mais celle-là, elle était.
Alors, bien sûr, Renaud Létang, c'est tout un parcours. On a cherché quelques titres associés à ce parcours. Le plus évident, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Alain Souchon avec ce tube.
Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
Les défauts, et je vois aussi par contre ce qui était fun, c'est qu'il y avait zéro réverb, la batterie est tapée comme du rock. Ouais. J'étais vénère comme tout, tu vois, j'étais jeune, quoi. J'avais 21 ans, je jouais pas l'exemple.
Vous êtes en train de commenter donc votre premier enregistrement, votre premier mixage, c'est ça?
C'est ça.
Sur Foule Sentimentale, Alain Souchon.
Ouais, exactement. C'était la première fois en fait que j'avais et le mixage et l'enregistrement d'un album à faire. Donc, je sais même pas quoi dire tellement c'est une chance hallucinante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais avec Michel Curiau et je faisais des pubs la semaine. Donc, on avait fait une pub dans la semaine, une pour Renault. Il y avait 40 cordes. Le lendemain, c'était de la vielle. Le jour d'après, il fallait faire une copie de Massive Attack. Ok. Et à la
pour
fin,
la pub.
Voilà.
Le monde magique de
exactement.
La pub.
Exactement. Ouais. Et à la fin de la semaine, il me dit, ouais, Renaud, ce serait peut-être pas mal que t'auditionnes pour l'album d'Alain parce qu'on cherche des ingénieurs du son. Et puis c'est venu comme ça. Et voilà, j'ai même pas fait d'audition. Je me suis retrouvé là le premier jour. Je me suis retrouvé à la console. Alain arrive à ce moment-là.
Alain Souchon.
Voilà, ouais. Me regarde, me dit, mais me demande où est l'ingénieur du son, évidemment, donc parce que j'avais l'air d'un enfant. Et donc je lui dis, c'est moi. Il est parti de l'autre côté voir Michel Curiau, qui était le réalisateur de l'album, qui a dit non mais c'est pas possible, je peux pas travailler avec mon fils, ça va pas être possible. Non mais vraiment, hein, c'est très très mal passé au départ. Et à la fin de la journée, c'était évidemment oublié. Et puis ça c'est après, c'est comme un oncle chéri Alain pour moi. J'ai fait 7 albums avec lui, ou je sais plus combien, 6, ou j'en sais rien.
Vous aviez déjà votre style à l'époque, ou il a fallu le trouver?
Non, je dirais pas que j'avais mon style, mais j'avais le style de quelqu'un qui faisait quelque chose de frais, parce que j'étais frais, mais du style, je crois pas, non.
Deuxième extrait, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, Raphaël et Arthur, bien sûr, c'est l'album Clandestino de Manu Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
On est en 98, carton total. C'est le premier album avec un ordinateur, entièrement. Oui. C'est ça, hein?
Exactement, oui. Exactement. En fait, Manu avait fait des maquettes, Manu Chao, avait fait des maquettes avec un Atari et un petit recorder 8 pistes numériques qu'il avait. Et il voulait qu'on arrive à mettre El Midi, donc, et les éléments d'ordinateur et les audios, tout ça dans un même ordinateur, et qu'on puisse tout gérer en même temps. Et donc il a fallu que je parte à la recherche d'un système qui pouvait marcher. Et je me suis retrouvé à trouver une solution, ça s'appelait Sonic Solution. C'était Pro Tools existait déjà, donc c'est le nouveau standard d'aujourd'hui, mais il avait pas les fonctions de MIDI, on pouvait pas mettre le MIDI avec et tout ça. Donc je m'en suis retrouvé à bosser là-dessus, et ça a été pour moi, pour le coup, je peux pas dire le contraire que Manu, il m'a sorti de mon petit confort. Et par contre là, pour le coup, j'ai trouvé un son, et j'ai trouvé en tout cas une manière de produire, ça c'est sûr. Je suis passé de Jean-Michel Jarre à Alain Souchon, avec Alain Souchon, je sais pas qui à l'époque, je faisais Mais c'était, on avait des moyens, des beaux studios, de l'argent, du temps, des beaux micros et tout ça. Et là, je me suis retrouvé dans une cave avec un micro pourri, une guitare pourrie, une basse pourrie et une boîte à rythme pourrie. Et voilà, et c'est tout. Et ça m'a complètement... Ça a été dur au début, parce que j'avais l'impression que j'avais pas mes outils, que j'y arriverais pas, que c'était l'enfer, que j'entendais rien, que j'étais perdu. Et ça m'a complètement obligé à repenser toute la musique autrement.
Et la part de psychologie, justement, on en parlait, Manu Chao, il était à vos côtés pendant l'enregistrement. Comment ça se passait entre vous?
Alors, ouais, on était là tous les deux. Après, j'avais des grands moments aussi où j'étais seul, où ils me laissaient éditer les morceaux, parce que justement, c'était la première fois qu'on pouvait mettre de l'acoustique en boucle. Donc, c'était génial pour moi. Donc, je prenais un bout de guitare que j'adorais, et je pouvais tout d'un coup le répéter. C'était la magie. Mais oui, il était là, bien sûr. La cave, c'était chez lui. Donc, voilà, quoi, on était entre sa chambre et la cave. Mais il m'a laissé beaucoup de liberté, et j'ai pu terminer l'album tout seul. Je crois qu'à un moment, on a passé énormément de temps sur cet album, en fait. On a l'impression que c'est un petit truc vite fait, mais c'est 8 mois de travail intense. À faire comme sur un film, une fois qu'on avait tous les morceaux mixés, ben, on a tout repris et on a tout remis ensemble. On a rajouté des trucs dessus, toutes les ambiances. Et puis après, on a tout réédité. Et puis après, on a tout crac-crac. Et à la fin, c'était juste des petits morceaux de 2 minutes 30, hyper léchés, en fait. C'est faussement pas produit. C'est ultra produit, en fait.
Alors là, un autre album qui a été là, un carton international, et d'ailleurs votre nom a circulé à l'étranger, il circulait déjà, mais là ça a vraiment été la confirmation avec le tube de Feist. Enregistrement, mixage avec Gonzalez.
Exactement.
C'est une collaboration avec Gonzalez pour vous, Renaud Létang. Un son qui travaille le vintage. Et là, vous trouvez véritablement le son pour cet album.
Ouais, alors en fait, on avait déjà travaillé avec Gonzalez. C'est nous qui avions fait l'album d'avant. Feist était là pour faire la tournée européenne de Gonzo dans les chœurs, en fait. Et il me dit, ouais, j'ai une copine, elle chante super. Tu voudrais pas qu'on fasse ça? Donc, on a fait ce premier album, Let It Die, mais qui nous ressemblait beaucoup à Gonzo et à moi. En fait, on a fait notre album.
Avec elle?
Avec Feist, qui était. C'était l'album rêvé qu'on avait pour Feist, en fait. Et cet album-là, ça a été vraiment une recherche pour que ça lui ressemble beaucoup plus et que ça soit beaucoup plus vivant et beaucoup plus. Avec de la texture, avec beaucoup plus humain. Voilà.
Vous signez votre premier album bientôt?
Exactement.
Ouais. Vous n'allez pas chanter?
Non, pas chanter.
Ce sont vos copains qui vont chanter, Gonzalez, Feist et compagnie?
Voilà, c'est mes proches, ouais.
Vous écrivez les paroles, la musique, tout?
Alors j'écris la musique. J'écris la musique et je donne les thèmes. C'est quand même un album à tendance instrumentale.
Ouais.
Donc il n'y a pas de chansons qui appartiennent à un seul chanteur. C'est où ils sont là un peu tous, ou c'est de la musique instrumentale.
Vous travaillez dessus ou c'est fini?
Je suis sur la fin.
Ah ouais?
Je suis sur la fin. Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'il fallait que je trouve ce que je voulais dire. Je voulais pas faire un album de producteur comme une compile avec un enchaînement de morceaux avec des artistes. Et pour ça, Chilly Gonzalez m'a beaucoup aidé. C'est lui qui réalise l'album pour moi, en fait. C'est lui qui m'a vraiment poussé à sortir ce que j'avais en moi. C'est pas encore fini, mais j'espère que ce sera. Plus qu'un album de producteur.
On prendra rendez-vous quand il sortira en 2022. Vous avez le titre?
Pas encore.
Ouais, il a le titre.
Exactement.
Très bien. Bah, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. Fochette Ayrton, c'est la totale. Il y a le EP de remix d'Écran Total, la version augmentée de 4 lives de votre album Palais d'Argile, et une énorme tournée le 9 janvier à Chambéry, le 12 à Besançon, chez Marion Guilbeault, le 20 à Reims, le 22 à Lille, le 10 février, le Zénith à Paris, puis plein d'autres dates. Merci Renaud Létang.
Avec plaisir.
Beaucoup de travail, je sais, les prochains albums de Feist, Philippe Catherine, Jeanne Adette d'ailleurs, puisque tout à l'heure vous étiez encore avec elle, d'autres encore, et le vôtre, bien sûr, en préparation. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique ce soir, Florent Layani, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, le trouble de la programmation, et enfin Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.